Chapitre 19. Le hibou avait donné rendez-vous à Léonie à 11 heures du soir. « Je vous paierai plus cher », avait-il précisé. « 2 000 euros, tarif de nuit. » Pourquoi en pleine nuit? Elle trouvait ça bizarre, pas dans les habitudes des hiboux. « De simples raisons techniques », avait répondu son correspondant. « Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien au protocole, vous toucherez 300 euros au premier rendez-vous comme d'habitude. Le second est prévu à 11 heures du soir, lui aussi? Peut-être pas. » Il la rappellerait au cours des 4 jours pour lui fixer l'heure. Elle avait donné son accord, elle avait un besoin urgent de fric. Jacques lui avait promis de lui obtenir des faux papiers pour 800 euros, nettement plus cher que Vinci Code. Elle supposait que Jacques, le guépard, prélevait sa commission. Elle ne lui en voulait pas. Seuls les débrouillards, les prédateurs, survivaient dans ce monde implacable. Elle ne pouvait pas croire qu'elle ne reverrait plus jamais Denis. Jacques et elle était resté planqué dans un réduit jusqu'à ce que les flics ou les croque-morts aient fini d'enlever la 20aine de corps étalés dans le grenier. Ils avaient attendu toute la nuit avant de bouger, de peur de tomber sur des keufs ou des vigiles de faction. Jusqu'à l'aube, Léonie avait été secouée de sanglots. Elle regrettait, Dieu qu'elle regrettait, de s'être refusée à Denis quelques jours plus tôt. Elle se disait, stupidement, qu'elle était responsable de sa disparition, qu'elle l'aurait retenue à la vie, si elle avait accepté de s'abandonner à ses lèvres. Les baisers des contes qu'elle avait lus avec ravissement dans les livres de la bibliothèque du squat avaient le pouvoir de briser les sommeils de 100 ans, de changer les crapauds en princes. Ils avaient certainement le pouvoir de conjurer la mort. Jacques avait respecté son chagrin. Il n'avait pas cherché à tirer un profit autre que pécuniaire de la situation. Ils avaient quitté leur cachette à l'aube, s'était aventuré avec prudence sur les escaliers endommagés par les incendies, s'arrêtant au moindre bruit suspect, avait gagné sans encombre les sous-sols et emprunté les souterrains jusqu'aux caves de l'immeuble voisin. Jacques avait raccompagné Léonie à l'appartement du 13e arrondissement avant de lui refiler son numéro de portable. « Tu m'appelles quand t'auras les thunes pour les papiers, hein, Frangine ?» Il s'était éloigné de sa démarche dansante jusqu'à la station de métro proche, la laissant enfin seule avec sa détresse. L'appel du hibou l'avait tiré d'un sommeil agité en plein milieu de l'après-midi. Il ne restait pas grand-chose à manger dans le frigo du copain de Tania, la panthère. Léonie se força à avaler des pâtes agrémentées d'épices et d'un fond de sauce tomate. Elle se retrouvait tout à coup sans projet, sans revenu, sans argent, sans papier, sans avenir. À regretter presque la chambre à cauchemar du pavillon de tante destinée. Là-bas, au moins, son espace était délimité par des cloisons, un toit, un plancher. Elle n'avait pas cette sensation d'être perdue dans une solitude plus immense que le ciel. Même lorsqu'elle aurait touché l'argent des hiboux, même lorsqu'elle aurait reçu ses nouveaux papiers, elle ne saurait pas quoi faire de sa peau, posée sur la frontière entre le monde des Blancs et le monde des Noirs, n'appartenant ni à la terre rouge d'Afrique, dont on l'avait arrachée à l'âge de 8 ans, ni à l'Europe, le monde froid et cruel qui lui avait pris son seul complice, son seul amour. Léonie passa des heures à regarder les images qui déferlaient sur l'écran de télévision. De la terre entière montaient les gémissements des humains, les uns ployant sous la férule d'envahisseurs, d'autres s'exterminant pour d'obscurs motifs religieux ou territoriaux, d'autres mourant de faim et de soif sous les nuées de mouches, d'autres s'estimant martyrisés par le fisc et menaçant de s'exiler dans des pays aux législations plus accueillantes, d'autres se plaignant de la solitude, d'autres ne supportant plus leurs conjoints. Qu'ils fussent pauvres ou riches, malades ou bien portants, célibataires ou en couple, travailleurs ou chômeurs, blancs ou noirs, les hommes avaient toujours des raisons de se lamenter, comme si, une fois leurs besoins satisfaits, une fois leurs désirs accomplis, ils s'inventaient de nouvelles façons d'apitoyer les autres et de s'apitoyer sur eux-mêmes. Léonie parvint pendant quelques instants à oublier son propre chagrin, à ressentir de la compassion pour les visages entrevus, les drames effleurés. Elle suivit avec intérêt un reportage sur le Libéria, sur les enfants soldats manipulés par des factions elles-mêmes contrôlées par les États africains voisins, les gouvernements occidentaux et la puissance chinoise. Si elle soulevait en elle des rafales de souvenirs éparpillés, incohérents, les images ne lui donnaient pas envie de retourner dans son pays de naissance. Là-bas, elle ne ferait pas 10 pas sans être capturée par une bande de gosses et conduite comme un animal à un chef de bande au regard empourpré par l'alcool et les drogues. Là-bas, elle serait livrée aux hommes noirs comme en France elle avait été livrée aux hommes blancs. Puis, quand ils en auraient assez d'elle, quand ils l'auraient remplacée par une plus jeune, une plus jolie, une moins abîmée, ils l'exécuteraient d'une balle dans le ventre avec la même négligence qu'ils écrasaient une blatte. Là-bas, c'était le règne des armes, de la corruption et de l'arbitraire, comme ici, c'était le règne des lois, de l'argent et du mépris. Dans les deux cas, il valait mieux ne pas être une femme seule et noire. Au crépuscule, une clé grinça dans la serrure de la porte d'entrée. Léonie n'eut aucune réaction quand l'homme s'introduisit dans l'appartement. Un blanc au crâne dégarni, cerné par une couronne de cheveux gris, un visage mou et pâle, des yeux clairs, des épaules tombantes, un ventre débordant sous un polo jaune vif, traînant derrière lui une énorme valise à roulettes. Il se figea lorsqu'il découvrit la fille noire recroquevillée dans le canapé, l'observa quelques instants avant de dire « T'es qui, toi ?» Sa voix de fausset horripila Léonie. Elle ne répondit pas, incapable d'expulser la moindre syllabe de sa gorge sèche. « Une copine de Tania, c'est ça ?» reprit l'homme. « Je lui ai pourtant dit 1000 fois que mon appart n'était pas un refuge pour les paumés de Paris. Tu sais où elle est ?» Léonie secoua la tête. « Mais c'est bien elle qui t'a amené là, non ?» Elle acquiesça en silence. L'homme s'approcha et la détailla avec une insistance blessante. « Eh ben, t'as avalé ta langue ? Je vais pas te manger, hein ? Je m'appelle Nathan. Tant pour les intimes. Et toi ?» Léonie. L'homme eut un sourire qui dévoila une double rangée de dents jaunes et désordonnées. « Ah, t'es pas muette, finalement. J'arrive à l'instant de Hong Kong. J'y étais pour affaire. Je suis un peu déphasé. Je vais prendre une douche, et puis on reprendra cette conversation si tu veux bien. Je te chasse pas, tu peux rester autant que tu veux. » Léonie faillit détaler pendant qu'il se douchait. Elle n'aimait pas son air vicieux, ni son timbre au perché, ni sa peau flasque, ni son odeur fade. Sûre qu'il ne lui avait pas proposé de rester chez lui sans une petite idée derrière la tête. Mais elle ne savait pas où aller et risquait fort d'être contrôlée si elle traînait dans les rues. De deux mots, elle devait choisir le moindre. Elle userait de tous les subterfuges pour éviter d'être touchée par tant. Mais, puisque Denis était mort, elle l'admettait pour la première fois. Il lui suffirait, si elle n'avait vraiment pas d'autre choix, de descendre loin en elle-même, de s'isoler, de s'enduire de la même indifférence qu'avec les clients de tant de destinées, de redevenir un bout de chair sans âme, un corps anonyme. Elle n'était pas certaine d'avoir une très grande envie de survivre, mais quelque chose, un instinct ancestral ou un vieux principe niché dans ses fibres, lui interdisait de mettre un terme prématuré à son existence. Elle aurait eu l'impression de commettre une faute impardonnable, un crime contre l'humanité, si elle cédait à la tentation parfois entêtante du suicide. Tant revint de la douche vêtu d'un peignoir d'éponge mal refermé par une ceinture lâche. Il s'assit sur le canapé aux côtés de Léonie, les jambes écartées. Son cou maigre, ses pectoraux affaissés et le haut de son ventre rebondi émergeaient de l'entrebâillement de son peignoir. Son parfum répandait à profusion ses effluves poivrées dans l'appartement.
« Donc, tu sais pas où est passée Tania ?»«
Elle n'a pas remis les pieds ici après m'avoir volé mon argent. »«
Beaucoup ?»
Il se laissa aller contre le dossier du canapé. Les pans de son peignoir s'écartèrent encore et dévoilèrent une anatomie peu engageante. La couleur de ses tétons et de ses testicules rouge vif offrait un contraste répugnant avec la blancheur de sa poitrine, de son ventre et de ses cuisses. Il était glabre du cou aux pieds. Comment Tania et son corps de panthère avaient-ils pu se frotter à cette masse flasque, informe ? Il ressemblait à... Oui, à l'un de ces animaux marins que Léonie avait aperçu dans une émission de télévision. Un lamantin. Un gros mammifère molasson vivant dans les fleuves tropicaux. Pas mal.
M'étonne pas. Cette petite salope de Tania m'a déjà piqué plein de trucs dans l'appartement. Je lui ai rien dit parce que...
Il enveloppa Léonie d'un regard trouble.
Elle et moi, enfin, tu comprends ce que je veux dire ?
Léonie se recula et surveilla du coin de l'œil les mains et les gestes de son vis-à-vis. J'ai déjà un mec, dit-elle. Il s'appelle Denis. Il mesure presque 2 mètres. Une moue sceptique étira les lèvres de temps.
Il est où ton mec?
Parti pour quelques jours, il va bientôt revenir. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle baissa la tête pour échapper au regard inquisiteur de temps.
Tu viens d'où? Des Antilles. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Léonie chercha désespérément une réponse plausible. N'en trouva pas. Pas grand-chose.
Ton mec, il t'entretient alors ?
Le peignoir de Tan, le lamentin, continuait de glisser sur ses épaules. Il prenait un malin plaisir à s'exhiber, les jambes de plus en plus écartées, le bassin basculé vers l'avant. Léonie alla se poser au bout du canapé, tendue, prête à bondir. Non, elle ne redeviendrait pas le quartier de viande brûlée exploité par tant de destinées, la hyène et ses clients, les porcs. Elle ne reviendrait pas en arrière. Le souvenir de Dennis le lui interdisait.
« Va falloir payer d'une manière ou d'une autre, » reprit Tan. « En espèces ou en nature. » « Comme tu n'as plus de fric, je crains que tu n'aies pas vraiment le choix. Ça tombe bien, j'aime la nature. »
Il ricana, content de lui, s'approcha d'elle en glissant sur le canapé. Son dos, ses fesses et ses cuisses émirent un frottement hideux sur le cuir. « Va falloir te pencher sur le problème, ma belle. » Il la saisit par la nuque. La vitesse de son geste prit Léonie au dépourvu, de même que sa vigueur, surprenante pour un homme d'allure aussi avachi. Elle voulut résister, se jeter en arrière, mais il la grippa par les cheveux et l'inclina en force vers son bassin.
« T'as de la chance que j'aime les peaux de couleur, sinon je t'aurais foutu à la porte avec un coup de pied au cul. »
D'abord, elle ne résista pas. Puis, au moment de prendre dans sa bouche le gland rose vif, presque violacé, elle se détourna et planta ses dents dans le gras de la cuisse de Tan. Elle le mordit jusqu'à ce qu'elle sente le sang gicler sur ses lèvres, un sang doucereux, écœurant. Il mit quelques secondes à réagir le temps que la réalité de la douleur remplace la promesse du plaisir dans son cerveau, poussa un hurlement, lâcha les cheveux de Léonie et lui plaqua les deux mains sur le front pour la décoller de sa cuisse.
« Arrête, bon Dieu !»
Il commença à lui grêler les épaules et le haut du dos de coups de poing. Elle garda les mâchoires serrées, sentit la peau se déchirer sous ses dents, se redressa brusquement en arrachant un petit morceau de chair. Elle le recracha quand elle fut debout. Le sang s'écoulait sur la cuisse et le ventre de Tan. Il rabattit un pan de son peignoir sur l'entaille.
« T'es cinglé, bordel !»
De blanc, il était devenu blême.
« Nom de Dieu ! Il a fallu que je tombe sur une putain de négresse cinglée et cannibale !»
Il entrecoupait ses mots de grimaces, de gémissements, de cris de lamentin. Le sang maculait son peignoir, son canapé, le tapis et la table basse. Il gémit encore avant de lever sur Léonie un regard venimeux.
« Fous le camp !»
Elle ne bougea pas. Elle ne songeait plus à se rincer la bouche. Pourquoi les hommes n'étaient-ils pas tous comme Dennis ?
« Fous le camp tout de suite, ou je te flingue !»
hurla Tan, le lamentin.
« Et ne reviens jamais dans le secteur, ou je te jure que je te flingue !»
Elle réagit enfin, fila d'abord dans la cuisine, prit au goulot d'une bouteille plusieurs gorgées d'eau qu'elle recracha dans l'évier, récupéra son sac, s'assura que son téléphone portable et le chargeur s'y trouvaient, et se dirigea vers la sortie de l'appartement. Une nuit et un jour à tenir avant le rendez-vous fixé par les hiboux. Léonie décida que, pour éviter les mauvaises rencontres dans la ville hostile, elle se rendrait immédiatement dans les parages du laboratoire où elle resterait planquée jusqu'à l'heure du rendez-vous. Les risques seraient moins grands d'être repérée et contrôlée par les keufs. Et puis, il ne lui restait plus qu'un ticket de métro, mieux valait pour elle se tenir près du local des hiboux. Elle aurait pu y aller à pied, mais le métro, sans doute, parce qu'il se déplaçait dans le ventre de la terre, lui paraissait plus sûr. La nuit tombait sur Paris. La chaleur printanière accordait un semblant de gaieté aux passants, un peu de grâce aux femmes et de couleur aux arbres. Et des idées aux hommes, dont les regards luisants traînaient sur les rondeurs de Léonie. Elle prit le métro, effectuant deux changements pour gagner la station la plus proche du laboratoire. Les ténèbres s'étaient déployées, tièdes, odorantes, lorsqu'elle remonta dans la rue. Les terrasses des cafés étaient encore bondées et les fumeurs chassés des lieux publics s'intoxiquaient en chœur sur le trottoir ou sur les places. Elle ne prêta pas attention au type qui la hailait, qui l'invitait à passer un petit moment, voire plus, si affinité, en leur compagnie. Elle laissa derrière elle l'animation du boulevard et s'enfonça dans la rue étroite et déserte qui donnait, 300 ou 400 mètres plus loin, sur les bâtiments délabrés où officiaient les hiboux. La faim lui creusait le ventre. Au lieu de filer tout droit comme d'habitude, elle entra dans un petit square coincé entre deux immeubles et s'assit sur un banc de bois. Elle avait encore à la gorge le goût du sang du lamantin. Des gosses noirs, blancs, asiatiques, garçons et filles, jouaient au foot dans les halos des réverbères, sous les regards attentifs des parents, des frères, des sœurs, accoudés aux fenêtres ou aux balcons. Combien de Français? Combien de régularisés? Combien de clandestins parmi eux? Elle les regarda jusqu'à ce que la vie déserte le square. Elle les vit se disperser et s'envoler dans les escaliers des immeubles. Elle les vit, par les baies et les fenêtres éclairées, s'asseoir à la table familiale, se jeter sur leur assiette en gigotant des jambes. Elle entendit les remontrances des parents, des cris et des rires des plus petits, des voix nasillardes des présentateurs de télévision. Alors, écrasée de solitude, si loin de la compagnie des hommes, elle pleura. Une odeur de vin et de crasse l'avertit que quelqu'un s'approchait d'elle. Un vieil homme aux vêtements déchirés et à la face plus ratatinée qu'une pomme blette. Un vieux singe. Il la fixait de son œil gauche et luisant d'ironie sous la barre broussailleuse du sourcil. « Quelle raison tu as donc d'être à ce point malheureuse, ma beauté ?» Son haleine avinée la frappa de plein fouet. Elle essuya ses larmes d'un revers de manche. Des raisons? Il y en avait tant qu'elle ne pouvait en fournir une seule. Le vieux singe sortit de son sac une baguette, une boîte de fromage, une bouteille de vin rouge, un couteau à la lame ébréchée et rouillée. « Je t'invite à dîner, mon beau nuage noir. Comme tu peux le constater, on n'est jamais seul au monde.